Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et je voudrais aborder un livre aujourd'hui, ce serait une étude, hein, mais bon, vous êtes habitués. Une étude biblique, mais avec quand même un sens d'édification et d'exhortation. Parce que, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. À travers tous les temps, il y a eu des périodes fastes et quelquefois des périodes catastrophiques. Hein, et le livre de la Bible nous rapporte que Israël a été en quelque sorte, eh bien, un témoin de tout cela. Hein, peut-être des situations difficiles qui ont été causées par ses fautes ou par ses égarements, et puis dans d'autres moments où nous voyons, eh bien, Israël revenir vers son Dieu et repartir véritablement d'une manière ascensionnelle et découvrir des choses tout à nouveau et formidables. Et je crois que c'est un peu l'histoire de notre monde, c'est l'histoire de nos églises, c'est l'histoire peut-être de notre église, où nous avons vraiment besoin de nous tourner vers Dieu, comme le prophète Zacharie le dit, hein, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, et ça nous y tenons. Parce que, véritablement, eh bien, la conduite hein, de nos vies, la conduite des choses, soit faite véritablement dans la pensée du Saint-Esprit de Dieu. Alors, il y a parfois des ornières, il y a parfois des choses tumultueuses, hein, non pas seulement eh bien dans nos cœurs et puis dans nos communautés, mais quelquefois ça vient de l'extérieur. Et l'histoire que je voudrais vous raconter ce matin, c'est l'histoire d'une période des plus troublées en Israël pour le peuple juif. Et il y a toujours dans des moments terribles, et l'histoire le confirme, l'histoire normale, l'histoire courante, c'est qu'il y a toujours des hommes providentiels à ce moment-là. Hein. Il y a toujours un homme qui est suscité par Dieu et qui vient et qui va donner finalement l'impulsion pour se relever et sortir du précipice et de l'ornière. Est-ce que vous connaissez Sophonie? Vous le connaissez pas personnellement. Moi non plus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on va ouvrir. C'est un prophète. Alors on l'appelle petit prophète. Mais c'est quand même un grand prophète. Parce qu'il va dire des choses assez étonnantes. Alors, Sophonie, où ça se trouve? Parce que c'est ça, hein. Il doit y avoir 3 pages dans une Bible où il y en a 1500. Alors, si je peux vous aider à... C'est après Habacuc. Habacuc, 3 pages. Et c'est avant Agée. 5 pages. Ça va? Alors, vous regardez le sommaire, comme ça vous le trouverez tout de suite. Et je peux pas vous donner un chiffre de page, puisqu'il n'y a aucune Bible qui est pareille. Là, vous allez vous perdre. Hein. Donc, Sophonie, chapitre 3. Puis, si vous n'avez pas trouvé, eh bien, vous écoutez, tout simplement. Sophonie, chapitre 3, verset 9 à 13. Et nous allons considérer ce qu'il nous est dit. C'est un enseignement, donc... Alors, voilà. Sophonie 3, verset 9. C'est Dieu qui parle. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes en ce jour-là. Tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, dit Dieu, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Voilà, en substance, quelques mots de cette prophétie de Sophonie. Et j'aimerais quand même, en avant-propos, vous dire que c'est un message qui est toujours actuel. Il est toujours d'actualité et il traite d'un problème récurrent qui existait parmi le peuple d'Israël depuis toujours, depuis sa sortie d'Égypte, à travers les règnes de ses rois, bons et mauvais. Un problème qui est aussi un problème de notre temps. Un problème qui agite les cœurs et les consciences. Et quelquefois, ça va beaucoup plus loin que les cœurs et les consciences parce que ça peut être un déclencheur de conflits et de guerres sanglantes. Un mal qui peut causer beaucoup de choses, c'est l'usage immodéré de la langue. Alors peut-être que, avec tout ce qui se passe autour de nous, et je ne veux pas faire un rapprochement absolument avec le monde dans lequel nous sommes, où nous sommes bombardés d'informations contradictoires, avec le tout et son contraire, à travers ici ou là, ce que nous entendons, où les gens ne savent plus du tout où donner de la tête et qui croire et que croire. Et c'était le problème de l'époque de Sophonie en Israël. Et on s'aperçoit que Dieu va parler à un moment donné par la bouche de cet homme. Et il dira par Sophonie ces mots, « Alors je leur donnerai des lèvres pures. » Ce qui n'était pas le cas. Et on va le voir, on va le découvrir. Et un peu plus loin, dans la fin de notre récit, nous avons lu, « Ils ne diront plus de mensonges. » Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un chrétien qui est digne de ce nom, et s'il l'oubliait, eh bien, il n'est plus chrétien. Mais en tous les cas, s'il veut véritablement, eh bien, être et le demeurer, c'est d'être véritablement avec un langage de vérité. De dire ce qui est vrai. Jésus nous dit « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la vérité. » Ça, c'est Jésus qui le dit. Et je crois que s'il y a une chose qui fait partie de ce que j'appellerais, de ce que la Bible appelle la sanctification, parce que la sanctification, on la voit un peu à notre manière, ce sont les impuretés sensuelles, ce sont quelquefois, eh bien, toutes sortes de choses, le vol, enfin les choses grossières. Mais figurez-vous, et peut-être qu'on ne l'enseigne pas toujours dans les églises, mais que la sanctification passe par un langage, par une correction de langage ou une conversion de langage qui va de la grossièreté, de la vulgarité, à travers la médisance, à travers la calomnie, à travers toute chose semblable. Ça, c'est la sanctification. Et quelquefois, on se dit, bah oui, mais être un chrétien sanctifié, c'est, oui, de pas faire ceci, pas faire cela, ceci, cela, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour cela qu'il est bon quelquefois d'ouvrir certains livres dans la Bible, comme le livre de Sophonie, pour nous dire ce que j'attends de mon peuple, hier et aujourd'hui, c'est qu'il puisse faire attention à ce qu'il dit. Et si nous disons les choses, que ce soit des choses qui bénissent, et non pas des choses qui maudissent, des choses bénissantes, des choses qui font du bien, des choses qui encouragent, des choses qui exhortent, des choses qui consolent, et non pas le contraire. Et on aura peut-être des surprises, quelquefois de cette négligence du peuple de Dieu devant ce qu'il a considéré comme anodin, comme secondaire, dans la manière dont il parle, dans la manière dont il a parlé, dont il juge. Et après, quand on juge, on parle. Et on dit quelquefois des choses qui ne sont pas à dire. Et ça, c'est important. Je le dis parce que c'est vraiment un livre qui est dédié à cela. Et le verset clé de du livre de Sophonie, 3 chapitres, c'est pas grand-chose. Mais c'est le cœur, justement, de ce que nous avons lu. « Je leur donnerai des lèvres pures. » Maintenant, je leur donnerai, s'ils veulent bien recevoir, s'ils veulent bien entendre, s'ils veulent bien comprendre et s'ils veulent bien obéir. Et s'ils veulent bien se prêter à ce que moi, je purifie leur cœur, parce que ça vient du cœur, et après, c'est la bouche qui parle. Alors, on va aller un peu plus loin. On va faire la présentation du prophète. Il s'appelle Sophonie. Et on va dire quelques mots de son écrit, parce que lui aussi a dit des choses, mais il les a dit non pas de lui-même, mais il les a dit de la part de Dieu. Son nom veut dire « caché ou protégé par l'Éternel. Et vous savez qu'il y a un sens dans les noms hébreux, c'est que s'il s'est appelé, si ses parents l'ont appelé Sophonie, cela nous rappelle probablement qu'il était peut-être né durant les massacres qui avaient été ordonnés par les deux rois de Juda qui s'appelaient Manassé et son fils Amon, de sinistre mémoire. Parce que s'il y a deux rois en Juda qui ont été, comment dire, épouvantables, c'était les Juifs. Mais ils ont fait des choses, et surtout en ce qui concerne le roi Manassé, 50 ans de règne. Quelquefois, nous, on se plaint d'un quinquennat, mais 50 ans, imaginez-vous. 50 ans de règne avec des choses épouvantables. Un Néron ou un Galicula de l'époque. Son fils Amon, lui, a eu moins de chance parce qu'il a régné pendant 2 ans et demi et s'est fait assassiner. Bon. Les choses étaient ainsi. Et probablement, on l'a appelé Sophonie parce que son nom veut dire caché et protégé de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il a vécu probablement, parce qu'il y avait une telle persécution sur les croyants à l'époque. Mais tout ça, c'est de l'histoire. On apprend, et c'est un des rares, on apprend que c'était un prophète de race princière. Les commentateurs bibliques nous disent qu'il était descendant, arrière-petit-fils du roi Ézéchias, qui était un bon roi de Juda. On connaît la foi d'Ézéchias. Et il était donc de race princière, ce qui lui permettait d'avoir une entrée auprès des grands de ce monde, de ce monde-là, parce qu'il connaissait bien les mœurs et les dissolutions de la cour. Ah oui, il était né dans ce milieu-là, alors il savait très bien, il connaissait le petit peuple, il connaissait le commun des Israélites et des Juifs, ça il le savait, naturellement, mais sa position et sa naissance faisaient qu'il était quand même dans les instances du pouvoir. Et vous savez, s'il y a quelquefois un mal parlé chez le petit peuple, excusez-moi l'expression, c'est pas péjoratif, qu'est-ce que ça doit être chez les grands? Qu'est-ce que ça doit être dans les instances dirigeantes et dans le pouvoir? On n'en a qu'une vague idée, Bien que quelquefois il y a des choses qui explosent comme ça, comme un feu d'artifice, ça nous vient. Et on se dit, mais c'est pas possible. Alors on comprend que quelquefois les gens ne savent plus où ils en sont rendus. Puisque quand même l'exemple doit venir du haut, me semble-t-il, à tous les niveaux, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit là dans ceux qui ont une autorité, peut-être professionnelle ou sociale, et puis les parents aussi, quand on va un peu plus bas. On comprend que la société d'hier et la société d'aujourd'hui est quand même mal en point avec tout ça. Et ça passe par le vecteur de la bouche. Et ça dépend ce qu'on communique. Si on communique des choses bien, eh bien ça sera du bien, mais si on communique des choses douteuses, et voire peut-être scandaleuse, c'est une autre affaire. Moi, je fais pas la morale, mais je constate que c'est une constante dans l'humanité. C'est quelque chose qui a toujours été, et la Bible est là, qui est un livre toujours actuel pour nous dire « Attention, attention, parce que danger !» On sait ce qu'a pu coûter au monde dans ce XXe siècle, certains discours enflammés, discours infernaux, qui ont amené finalement, tant de souffrances où les portes de l'enfer ont été ouvertes, faut quand même pas l'oublier. Alors, parlez, voilà, je leur donnerai des lèvres pures, nous avons lu. Il était prophète en Juda, c'est-à-dire dans la petite partie d'Israël, durant le règne du roi Josias. Alors Josias va devenir un bon roi, il a eu un très mauvais père, mais lui il a fait le contraire. Il a fait des réformes, et c'est ainsi justement qu'il est apparu ce prophète, un roi, Josias, qui veut réformer en bien la nation, qui après des années, des décennies, était avachi dans l'idolâtrie et dans des pratiques corrompues des classes dirigeantes. Alors si la tête est pourrie, le bas naturellement l'est aussi, ça descend. Et c'était le climat, c'était le monde dans lequel les choses se passaient. En Israël, vous vous rendez compte, le peuple normalement qui devait montrer l'exemple à toutes les nations. Et pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, Juda a été livré sans frein au culte de Baal, c'est-à-dire l'idolâtrie, toutes sortes de choses qui n'avaient plus rien à voir avec l'adoration de Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face !» Le premier des 10 commandements. Et là, il s'était mis toutes sortes de culte au culte, d'adoration épouvantable, en priant l'armée des cieux. Alors c'était les étoiles, c'était le soleil, etc. Ils avaient fait hein, toutes sortes de choses, la divination, la magie, la prostitution sacrée, parce que ça allait bon train à l'époque, hein, prostituée sacrée, et qui se trouvait dans les temples, hein, jusque dans le temple de Jérusalem. Enfin, qu'est-ce qu'on penserait aujourd'hui, hein? C'était ça. Même du temps de Manassé, ils étaient revenus à cette chose qui était une abomination devant Dieu, les sacrifices humains. Tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu, c'est-à-dire les faire mourir, sur un autel, pour avoir les faveurs des dieux, au pluriel, qui ne sont pas des dieux, qui sont des faux dieux, de l'idolâtrie, quelque chose d'horrible. Alors, c'était ainsi ce contexte, mais c'était tout simplement la marque, on pourrait dire, du paganisme le plus odieux. Les fidèles de Dieu, ceux qui finalement, eh bien, avaient gardé leur conscience et qui gardaient la parole de Dieu, les fidèles donc de Dieu, étaient persécutés. Et on sait que tous ceux qui veulent vivre, on le disait dernièrement dans une de nos réunions, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est Paul qui le dit à Timothée, mais on le sait. Tandis que les autorités politiques et religieuses vivaient dans le luxe, dans l'immoralité, l'oppression des pauvres, la violation de la loi et des choses saintes. C'était ce que nous appelons aujourd'hui, bibliquement, l'apostasie, c'est-à-dire le rejet de la vérité. Et si nous voulons nous en convaincre, c'est Dieu qui va susciter Sophonie pour lui donner un message qui est celui-ci. Je lis quelques passages, hein, tout simples. Et il dira, c'est un réquisitoire vigoureux contre tous ces gens qui mènent le monde. Et il dira ceci, les chefs d'Israël au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ils font peur, parce que les rugissements, ça fait peur. Ces juges sont comme les loups du soir qui gardent rien pour le matin. Vous rendez compte que toute la magistrature d'Israël, qui normalement était censée de s'inspirer de la loi de Dieu, est qualifiée de loups du soir, qui chasse et qui détruit. Ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs, les prêtres, profanent les choses saintes et violent la loi. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y en a d'autres comme ça, hein, dans la bouche de Sophonie. C'est terrible. C'est terrible un contexte quand il n'y a plus rien qui tient dans une société. Plus de principes, plus de préceptes. Où finalement, eh bien, les références sont complètement été gommées. Et c'est vrai que ça augure quand même quelque chose qui est inquiétant. Moi, je ne peux pas présager de l'avenir, mais vous savez, Jésus le dira d'une manière, et moi j'aime bien les paroles de Jésus parce que il y a un bon sens essentiel quand il dit, mais un bon arbre produit de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Moi, je pense que c'est une logique déconcertante, me semble-t-il. Et ça, on le sait. Mais faut-il que ne pas l'oublier. Alors, c'est pour avertir Judas et l'amener à la repentance que Dieu envoie Sophonie, un des vecteurs majeurs du mal qui sévit et qui n'est autre que le mensonge, la tromperie, la fausseté, toutes sortes de combines, toutes sortes de choses, et qui est véhiculée par le langage des hommes, à travers des murmures, à travers des insatisfactions. Les gens n'étaient pas contents, ils étaient jamais contents. On pouvait faire ceci, on pouvait faire cela, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Les critiques incessantes. Et puis la mauvaise langue. Vous savez que ça peut arriver chez nous aussi, la mauvaise langue. Vous croyez que ça n'existe pas dans une église, la mauvaise langue? Eh bien, moi, je voudrais vous dire qu'elle n'a pas droit de citer au milieu de nous. Non. Je suis ferme, hein. Que de problèmes et que de témoignages épouvantables qu'une église peut donner quand il y a de la mauvaise langue au milieu des chrétiens. Je suis pasteur, hein. Vous le savez, non, peut-être. C'est vrai, c'est pas possible. Quand ça papote, cancane, et que ça va de ceci et cela, ben moi je pense que là on peut toujours dire « Seigneur, je te bénis », mais quand on bénit de notre bouche de cette manière le Seigneur, et quand on dit des choses mauvaises sur ses frères et ses sœurs, alors vaut mieux rien dire du tout. On est d'accord? C'est pas le grand enthousiasme à ma réponse. Mais c'est la nature des hommes! Mais le Seigneur n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous transformer si nous le voulons bien. C'est ça le but. Le Seigneur est venu pour nous juger, pour nous réformer, nous transformer. Ça s'appelle la conversion, ça s'appelle la régénération. Et croyez bien que ce n'est pas un problème mineur, le problème de la langue, de la mauvaise langue et de la critique. C'est pas mineur. C'est autant que l'adultère, si ce n'est pas plus. Parce que ça se fait d'une manière tellement insidieuse. Ah ben l'adultère, ça c'est sûr que ça se voit à un moment ou à un autre. Dixit, l'histoire de David, à un moment donné, il a essayé de cacher tout ça, mais bon, c'est parti en explosion. Ben oui, ben voilà. Alors on se dit, oh ben la mauvaise langue, c'est pas grave. J'ai dit, voilà, tout simplement. Attention. Vous savez, dans le livre des Proverbes, il est dit ceci, je lis, hein, je restitue le texte. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Quand il est dit un homme prudent, vous pouvez le mettre au féminin. Hein. Dans le livre des Proverbes encore, au chapitre 15 et au verset 4, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Et que d'âmes qui ont été brisées. Que de gens qui étaient bien partis, qui ont été cassés, fauchés, parce que finalement, eh bien, on leur a fait un traitement qui était injuste. Vous savez, pour vivre en communauté, il faut savoir être patient, supporter, se supporter les uns et les autres, et Jésus y mettra la barre un peu plus haut. Il dira non pas seulement supportez-vous les uns les autres, mais aimez-vous les uns les autres. Oh là là, le programme est difficile. Hein. C'est vrai. On aime ceux qui nous aiment, mais ceux qui nous aiment pas, forcément, c'est pas toujours à peu près le même rapport. Alors, en Israël, du plus grand jusqu'au petit, en tout et partout, c'était un concert de toutes sortes de choses qui volaient. Et on pourrait dire que ça peut s'associer, concert de mauvaises choses devient un cancer de mots et de conversations enflammées, toxiques, empoisonnées, et qui faisait que c'était ingérable. Pour Dieu, il est urgent de remédier à ce feu infernal, et il était urgent que Sophonie dise. Et vous savez, quand vous êtes proposé à dire des choses difficiles à quelqu'un, ou à un groupe, ou ceci et cela, dans une entreprise, partout, hein, faut être courageux, hein, parce qu'on va pas forcément avoir l'assentiment de tout le monde. Mais c'est dit. C'est dit, quelquefois c'est payé cher, parce que combien de prophètes ont été mis à mort? Combien de nos frères et de nos sœurs dans les moments de la réforme au XVIe siècle dans notre temps qui véritablement s'opposaient à l'église officielle et disaient ce qu'ils avaient à dire, vous savez comment ils finissaient? Sur les galères du roi ou alors sur la roue. Est-ce que ça veut dire? C'était terrible. Parce qu'ils disaient la vérité. Et quelquefois il faut être courageux. Alors, savoir dire les choses quand c'est la vérité, c'est pas de le dire d'une manière insolente, provocatrice. Ce n'est pas de le dire avec une supériorité. C'est de le dire avec humilité et douceur, et de le dire avec une inspiration qui va nous donner les mots qui conviennent. Parce que quand on veut reprendre quelqu'un et qu'on le dit d'une mauvaise manière, il y a le fond et la forme, mais quand la forme n'y est pas, ça détruit le fond. Alors à ce moment-là, vous pouvez toujours y aller, la personne ne vous écoutera jamais. C'est de la sagesse. Tout simplement de la sagesse. Alors, le prophète Sodomie va parler tout simplement pour reprendre, pour corriger, pour redresser. Mais il sait très bien que si le peuple veut bien écouter et obéir, c'est-à-dire se repentir de ses fautes, de ses paroles qui vont dans tous les sens, alors Dieu parle lui aussi. Il dit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures ». C'est une affaire qui nous ramène à la sanctification. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié? Alors c'est notre langue, c'est notre cœur, c'est nos pensées, c'est notre âme. Ça a une connotation de séparation et également de purification. Mais est-ce que nous pouvons le faire nous-mêmes? Vous savez, notre nature, elle est rebelle. Hein. Quelquefois, nous avons ces habitudes dont nous ne sommes même plus conscients de parler à tort et à travers, de parler avec la grossièreté, la vulgarité. On dit ça aux enfants, mais combien quelquefois d'adultes sont vulgaires et grossiers? Et quelquefois les enfants le sont parce qu'ils entendent ça dans leur maison. Ouais. La conversion et la nouvelle naissance doit nous amener à être des êtres nouveaux. C'est Paul qui nous le dit. Hein. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et de ne pas rester avec nos vieilles habitudes, nos vieux langages, notre vieux langage, toutes sortes de choses. Mais le Seigneur est capable. Moi, j'ai vu dans certaines conversions, en tant que pasteur, des gens qui étaient injurieux, qui étaient colériques, qui étaient blasphémateurs, qui juraient tous les jours, et il n'y avait pas une action où il n'y avait pas un jurant. À partir du moment où ils se sont convertis, ça a été terminé. C'est comme si, eh bien, ils avaient été purifiés. Je leur donnerai des lèvres pures. Ça, c'est un signe de conversion. C'est comme l'homme qui boit, eh bien, à ce moment-là, parce qu'il s'est converti au Seigneur, le Seigneur a changé son cœur, et il ne boit plus, il n'a même plus envie de boire. Celui qui critiquait, eh bien, il ne critique plus. Ah oui, si le monde était comme ça, vous rendez compte? Vous imaginez un instant que le monde soit comme ça? Les relations avec Monsieur Poutine, par exemple. Et puis avec notre ami là de Syrie, etc. Vous vous rendez compte, les nations seraient unies ensemble pour se faire du bien. Mais quelle rivalité, quelle concurrence. Terrible, hein? Terrible, le racisme. Parce qu'il est porteur aussi de mots terribles, le racisme. Le mot sous-homme. Ah, ça laisse réfléchir. C'est pour ça que la Bible, hein, elle nous enseigne beaucoup de choses quand on sait lire entre les lignes. C'était dit, hein, tout ça. Je leur donnerai des lèvres pures. C'est vrai. La Bible nous laisse un exemple mémorable d'un homme que Dieu va choisir pour être certainement le plus prolixe des pasteurs, des prophètes, pardon, de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Vous connaissez l'histoire qui s'est passée quand Dieu l'a appelé Ésaïe? Eh bien, on va le lire, c'est tout simple. Je voudrais simplement restituer ce passage. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va commencer par laver ses lèvres. Et alors qu'il y a là, eh bien, une manifestation de Dieu, Dieu se révèle au prophète. Et le prophète va dire ceci, quand il va se trouver devant Dieu, quand il va se trouver dans la présence de Dieu, hein, dans le monde spirituel. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ouais. Vous savez, Dieu prend des pincettes avec nous, hein? Expression? Eh oui. Ouais. Mais cet homme qui allait écrire 65 chapitres, qui est le livre le plus fourni de la Bible, le prophète Ésaïe, tout le monde a entendu parler du prophète Ésaïe, parce que c'est lui qui a annoncé l'évangile avant l'évangile, Christ avant sa venue, prophétie, prédiction extraordinaire qui se sont accomplies à la lettre. Quand Dieu l'a appelé à rentrer dans ce ministère de prophète ô combien difficile, il nous est dit qu'il a commencé à lui toucher les lèvres en disant « Maintenant tes lèvres seront pures ». Est-ce que nous voulons les uns et les autres que Dieu, est-ce que nous le désirons? Ça nous ramène à nous-mêmes et pas regarder le voisin. Le voisin, ça le regarde moi, ça me regarde pour moi personnellement. Mais est-ce que nous avons vraiment de dire, Seigneur, touche mes lèvres et purifie-moi. Purifie mon cœur, Seigneur, purifie mes pensées. Heureux ceux qui ont le cœur pur, nous dit Jésus dans l'Évangile, dans le sermon sur la montagne, car ils verront Dieu. Eh oui. Alors il faut éradiquer le mal à sa racine. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe va passer par là. On ne peut pas imaginer le mal que peut faire la simple médisance. Oui. Je rappelle la définition du mot médisance. La médisance, c'est dire des choses vraies pour faire du mal. Vous comprenez ? La calomnie, c'est dire des choses fausses pour détruire la réputation. Mais là, la médisance, ça passe. C'est une friandise, c'est un bonbon à l'anis. Si vous voyez, c'est doux. Parce qu'on dit du bien, mais dans l'intention, finalement, d'enfoncer les gens. Avec toutes sortes de petits poisons qui sont dedans et qui font que ben, ça fait son œuvre. Alors, parce que ça paraît souvent à nos yeux comme anodin et inoffensif. C'est donné, c'est lancé. Et pourtant, une simple parole qui tombe de mes lèvres, si si elle est mauvaise, va causer des ravages et je ne vais plus avoir la maîtrise parce qu'elle est partie. Alors cette parole mauvaise, elle sort de ma bouche, elle fait son chemin, elle marche, elle court, elle vole, elle vagabonde, elle brise un cœur ici, elle détruit au passage une réputation, elle tue la joie parce qu'elle va l'empoisonner, elle sème l'incrédulité et le doute, elle provoque la rumeur qu'elle à son tour s'envole au loin. Et où s'arrêtera ce que j'ai dit? La question elle est là, mais jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où va aller la dévastation de la parole sortie de mes lèvres? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Il y a une chanson qui a été écrite par Yves Duteil. Bien. Elle s'appelle La Rumeur. Oh oui. Écoutez, vous tapez sur Google et puis vous reprenez Yves Duteil et vous tapez La Rumeur. Vous allez voir, vous allez la réentendre. Elle est super. Elle court, elle vole, elle se déplace comme ça, etc. Et elle est capable d'enflammer le monde entier. Heureusement, nous sommes dans une société où il y a très peu de rumeurs. Ça nous réconforte. Mais quand même, eh oui, c'est terrible. Terrible. On peut dire tout et n'importe quoi sur les gens. Peut-être s'arrêtera-t-elle jamais cette rumeur. Elle ira de cause en cause, d'effet en effet. Fera tache d'huile, comprenez hein, naturellement l'image, elle fera boule de neige, et une boule de neige elle grossit de plus en plus, et d'insignifiante cette petite parole, à son origine, deviendra une montagne à un moment donné. Elle amoncera comme la boule de neige en cours de route, des impuretés, des inimitiés, et entraînera à sa suite la faiblesse ou la bassesse des cœurs, la colère ou la vulgarité, elle remuera la boue des fautes passées, même qui ont été pardonnées, et ça c'est pas bien hein. Oh là, c'est grave, hein. Elle ressuscitera ce qui est oublié et qui ne devrait jamais réapparaître en surface. C'est ça la rumeur, c'est ça la mésidence. Regardez, c'est rien du tout. Un souffle. C'est terrible ça, hein. Alors, sachons-le, cette parole mauvaise, non repentie, ou dont quelquefois nous n'avons même pas conscience. Quelquefois, ça m'est arrivé de voir des gens et de le faire comme le Seigneur le préconise, c'est-à-dire reprendre avec douceur et avec respect. C'est ça, hein? C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a le pouvoir de faire et de dire ceci et cela. Moi, je suis pas pape. Mais une chose qui est certaine, c'est que la Bible nous donne à chacun d'entre nous un savoir-faire pour non pas détruire, mais encourager et relever ceux qui tombent. Et on s'aperçoit que, comme on le disait tout à l'heure, il faut faire la différence entre le fond et la forme. Et ça, c'est quelque chose donc d'important, mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que quand quelqu'un fait une faute, quelquefois il n'en est pas conscient, parce que c'est son habitude, il a toujours vécu comme ça, et puis il faut lui dire, pour qu'elle prenne conscience. Comment avons-nous pris conscience que nous étions perdus et que nous avions aussi une vie avec un vieil homme qui n'était pas sorti, qui n'était pas la gloire de Dieu, nous étions donc avant de connaître le Seigneur. Comment le Seigneur est venu à nous? Il nous a pas pulvérisé, il nous a pas pilonné, il nous a pas mis là avec le couperet de la guillotine sur la tête. Le Seigneur, quand il est venu me voir, il m'a parlé avec amour. Il m'a dit qu'il m'aimait. Non pas pour que je reste comme j'étais, mais pour que je change. Et je crois qu'il a quand même réussi. Hein. On n'est pas touché par la violence, on n'est pas touché par le jugement implacable, impitoyable, mais on est touché par l'amour. Et si on s'est converti, c'est parce qu'on a été convaincu que Dieu nous aimait, même comme nous étions. Et c'est ça ce qui nous a fait fondre. C'est ça ce qui nous a mis à genoux devant lui. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé un monde qui était mauvais, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh oui, c'est ça le miracle de l'Évangile. C'est que nous pouvons nous approcher tel que nous sommes ce matin, nous pouvons venir tel que nous sommes devant lui et de lui dire pardon Seigneur, tu vois, j'ai entendu un message, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, hein, mais j'ai entendu un message qui me touche dans un problème qui est le mien, un problème récurrent que je n'arrive pas à me défaire, c'est le problème de la langue. J'ai toujours envie de parler. Oh. Alors Seigneur, si je dois parler, je continue à parler? Je continue à parler Seigneur, mais au moins que maintenant quand je vais parler, je parlais en bien, je parlais pour que ça soit une bénédiction. ce soit une rosée, ce soit un rafraîchissement, ce soit une consolation, une guérison dans ma bouche. Alors, vous savez, si cette parole, elle ne s'arrête pas et que nous ne pouvons plus l'arrêter parce qu'elle nous a échappé, et que si elle n'a pas été repentie, s'il n'y a pas eu de rectification, eh bien, à ce moment-là, elle arrivera, cette parole. C'est Jésus qui nous le dit. Elle arrivera au seuil de l'éternité. Et elle nous suivra ou elle nous précédera. Et il y a cette criante vérité dont voici à la fois l'origine et l'explication dans l'évangile de Matthieu, et je lis le texte parce que je crois qu'il est tout à fait approprié à notre réflexion ce matin. Et il nous est dit ceci, verset 34, 12. Jésus dira ces paroles, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ouais, ça dépend ce qu'il y a dans notre cœur. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, hein. D'ailleurs, vous le voyez tout de suite quand le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est quelqu'un qui est en colère. Ça explose. Et il y a les mots qui vont avec, hein. Regardez dans la circulation automobile quand vous démarrez pas suffisamment au vert. Vous entendez pas ce qui se passe dans la voiture à côté et ça vaut mieux pour vous. D'accord? Ben, c'est une petite image que je suis en train de prendre, hein. C'est de l'abondance du cœur. Si le cœur est en plénitude de bonnes choses ou s'il est rempli de mauvaises choses, eh bien que la bouche va parler. Il nous est dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. On est d'accord. Je vous le dis, dit Jésus, au jour du jugement. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh là. Il y a peut-être quelque chose à dire. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Je m'arrête sur cette dernière phrase. Seigneur, que tu me trouves le jour où je passerai et j'arriverai devant toi, pour que véritablement j'ai pu avoir une vie dont le langage est en accord avec véritablement cette morale, pas la moralité, cette morale, cette vertu, qui est enseignée par le Saint-Esprit, et qui donnera et qui a donné la preuve tout au long de mon existence que tu as fait un miracle dans ma vie. Tu as changé le mal en bien. Ouais. Vous croyez que c'est possible? Non, bah attends, je peux reposer la question. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Ah là 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 là, c'est formidable. Moi, je suis content pour vous, hein. Puis on est content ensemble. C'est vrai, parce que l'Église, elle est faite pour ça. Elle est faite pour marcher d'un même pas et d'aller de l'avant, et ne pas regarder en arrière, mais regarder non seulement à l'horizontale, mais regarder à la verticale. Parce que ça, c'est notre patrie qui nous attend de l'autre côté. Alors, je termine. Et quand je dis je termine, hein. Attention, vous me connaissez. L'abondance, soit en bien ou en mal, où l'abondance du bien ou du mal vient du cœur. Évangile de Marc, chapitre 7, vous pourrez le relire, Jésus en fait tout un lagus. La logique veut que d'un cœur bon et honnête, il en ressorte que du bien, et idem pour son contraire. Je ne m'étends pas là-dessus. Le jugement, en contrepartie, existe aussi vrai que Dieu est juge de toutes choses, au-dessus et par-delà les hommes, de nos actes, de nos dires et des faits, qui seront examinés selon la vérité, mais pas notre vérité à nous. La vérité du Seigneur, celle qui vient de Dieu. Si les paroles sont aussi volatiles que l'air, parce qu'une parole qui s'envole, ça va, on dit les écrits restent, hein, les paroles s'envolent, mais les écrits restent, mais les paroles, elles s'envolent. Et quelquefois, elles ne nous appartiennent plus. À partir du moment où elles ont franchi la porte de notre bouche, elles ne sont plus, elles viennent de nous, mais elles ne sont plus à nous. Hein. Alors à ce moment-là, elles n'en sont pas moins entendues et enregistrées au ciel. Il y a un grand ordinateur dans le ciel. Ouais. Vous êtes des spécialistes d'Internet. Tout le monde a Internet, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez comment ça se passe? Enfin, on rentre pendant les subtilités, mais vous savez que tout est enregistré. On connaît tout sur vous. Voilà. Alors, dans le ciel, ça sera autre chose. Mais ce que je sais, c'est que dans le ciel, quand il y a pardon de la part de Dieu et qu'il y a repentance, tout ça s'est effacé. Chez les hommes, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça disparaît en tous les cas. Hein, en ce qui concerne Dieu, quand il pardonne, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, ça doit nous susciter une crainte avant d'ouvrir tout simplement la bouche pour dire des mauvaises choses. Quelqu'un a dit de ceci et de très pertinent, un mauvais penchant, c'est d'abord un passant qui passe sur notre âme, c'est ça. Un mauvais penchant, c'est un voyageur, un passant qui vient sur notre âme. Puis, si nous n'y prenons pas garde, il devient un occupant qui s'installe. Et ensuite, il finit par commander en maître. C'est ça, finalement, en quelque sorte. Raison de plus pour prier comme David a prié. Il a fait des expériences, David. Hein? Ah oui, le roi David. Il a prié de cette manière un beau jour. Il a dit, c'est une belle prière. « Ô Éternel, mets une sentinelle devant ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres de peur de pécher contre toi. » Et contre les autres, naturellement. C'est sa prière. Et vous savez ce qui fait la preuve que il n'avait pas confiance en lui-même. Parce que s'il demande l'aide de Dieu, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Et il a raison. Parce que vous savez, on est tous, c'est humain, on est tous quelquefois abatifolés d'une manière ou d'une autre. On peut juger les autres de certains travers, mais quelquefois nous en avons des différents, mais nous sommes pareils. C'est pour ça qu'il dira, mais une sentinelle, vous savez, c'est une garde qui est là, hein, pour, naturellement, eh bien, vigilante. Tu la mets devant ma bouche, tu gardes les portes de mes lèvres, parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver à un moment ou à un autre. Je me sens si faible. Et puis je termine simplement par le texte que vous connaissez bien, parce que je crois que c'est le texte le plus évident dans la Bible. Si je vous dis Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 3, verset 2 à 6, on va le lire, tout simplement. Il nous est dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous vous rendez compte, la perfection, elle passe par la parole aussi, la bonne parole. Et puis voilà l'explication. Si nous mettons le mors, ou le morse, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est ce qui se passe à Saint-Nazaire. On est bien placé pour le vérifier. De même, la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps et enflammant le corps, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Les comparaisons sont faites, et je n'irai pas dans d'autres commentaires. Le mors que l'on met aux chevaux, c'est un gage d'obéissance. L'homme qui se domine et qui est capable d'obéir au Seigneur et d'aller dans le sens du bien. Le gouvernail, qui est quand même quelque chose, une pièce à côté des super paquebots qui sont construits ici. Bon, même si ça nous paraît gigantesque, le gouvernail, mais c'est rien en proportion du reste. Et c'est pourtant ce gouvernail qui va donner l'orientation et qui va incliner le bateau à aller sur les mers et les océans. Ouais. Et puis, il y a le feu. Et le feu a deux vertus. Soit il est capable de purifier pour rendre l'or, pour rendre l'argent plus pur, pour rendre notre foi comparée à l'or plus pure, ou alors il va détruire. Il ne restera rien du tout. Et comment admettre ce paradoxe qui nous est donné au verset 8 et 9 que je lis? Il est dit ceci tout simplement. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qui ne peut... qui on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il s'ensuit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. À moins qu'il y ait plusieurs robinets. Enfin, vous n'avez pas chez vous de l'eau salée. Hein, elle est chaude ou froide. Mais toujours est-il que là, nous avons un paradoxe, mais quelque chose qui provoque notre réflexion en quelque sorte. C'est un appel au bon sens et à la logique des choses. Comment, Seigneur? Comment se fait-il que je puisse dire, Seigneur, je te bénis ce matin, et que je vais critiquer? peut-être mes frères et mes sœurs, et que je vais critiquer les gens de l'extérieur. Quel témoignage je vais pouvoir donner? Ils vont dire, mais c'est pas un chrétien, celui-là. Parler comme il parle, ou vivre comme il vit, c'est pas normal. Nous faisons la démonstration de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et les gens qui disent, moi je peux entendre parler l'évangile, ils ont raison. Parce que si nous sommes les ambassadeurs d'une telle proposition, je peux vous dire que les gens, ils ont raison de se détourner. Et c'est nous qui serons en cause. Par contre, si véritablement, eh bien, avec la grâce de Dieu, avec la grâce que Dieu va nous donner, alors à ce moment-là, je puisse être ambassadeur de son royaume, dont le roi est Christ, et qu'il voit vivre Jésus en moi. Ouais, le Seigneur m'a appelé pour ça d'ailleurs. Alors la source est-elle jaillir de la même ouverture, l'eau douce ou amère? Nous voulons être des hommes et des femmes qui apportons la douceur de Christ autour de nous, à commencer par nos paroles. À commencer par nos paroles. Je leur donnerai des lèvres pures. Que le Seigneur nous bénisse. Et je termine, parce que j'aime bien les proverbes. Pas seulement ceux de la Bible, mais j'ai trouvé deux proverbes. Il y en a un qui est un proverbe allemand. Je vous le dis en français, hein. Vous avez préféré? Le médisant a le diable sur la langue, et celui qui l'écoute l'a dans l'oreille. Et il y a un proverbe de Voltaire qui dit ceci, la médisance est la fille de l'amour propre, de l'orgueil et de l'oisiveté. Alors, écoutez, on a autre chose à faire que de parler pour ne rien dire. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne sa grâce. Vous m'en voulez pas de vous avoir parlé comme ça, hein? Oh, laissez-moi avoir la fin de la journée quand même, hein. Allez, on va prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole, parce qu'elle est vraie. Parce que ta parole, elle est pure, elle est bonne, elle est excellente, elle est merveilleuse. Mais moi, je me retrouve, Seigneur, devant ta parole, et je le dis pour moi-même, et j'ai besoin aussi, Seigneur, que tu purifies mon cœur, et que tu purifies ma langue, que tu me donnes, Seigneur, d'être comme Jésus, où il nous est dit qu'il était doux et humble de cœur. Donne-moi d'être doux et humble de cœur, comme Jésus, et ainsi d'être en bénédiction à mes frères et mes sœurs. Mais pas seulement, Seigneur, à l'Église, à ceux qui sont à l'extérieur, à ceux qui m'entendent, qui me voient vivre, et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, je puisse rendre un bon témoignage de celui qui est mon roi, de celui qui est mon chef, de celui qui est maître dans ma vie, et qu'ainsi, Seigneur, véritablement, qu'il y ait dans ma vie de l'eau douce, oui, Seigneur, une eau qui bénit, une eau qui enrichisse, une eau qui fortifie, une eau qui console, une eau qui encourage. Seigneur, rafraîchis-nous par ton esprit et ta parole. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.